des cerveaux atypiques pour les acharner. Trop épris de liberté pour chauffer à la casserole toutes nos idées folles pour nous rendre pacifiques face à la panique. Camisole chimique pour des cerveaux atypiques dans un monde chaotique qui se permet des diagnostics où les nerfs exacerbés sont tous mis au secret. Camisole chimique pour des cerveaux atypiques aux remèdes plastiques à réalité unique pour jouer à te droguer avec d'autres internés. Camisole chimique pour des cerveaux atypiques qui selon la psychiatrie apaisera tes insomnies où ta lucidité sera exterminée.
Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur Radio Galère 88.4 et bienvenue à la première de Radio Soin Soin. C'est un peu délicat, il faut faire la technique en même temps. Bonsoir. Alors voilà, première émission donc de Soin Soin. On va parler de psychiatrie ce soir avec plusieurs invités. Le but donc de cette émission, ça va être surtout de parler de nos souffrances mentales. Dire que tout simplement, nous sommes tous concernés par les souffrances mentales, les souffrances psy. Il faut arrêter de dire que nous n'avons pas de souffrance psy, que les autres sont bizarres et que nous, on est tous normaux. Non, la normopathie, ça ne passera pas par nous. Radio Galère nous a gentiment offert ce créneau pour que nous puissions déconstruire certains préjugés sur les souffrances psy, sur la psychiatrie en général. On est ici pour dire que nous sommes joyeusement passés par des divers hôpitaux et cliniques psy, que nous prenons des gentils médicaments qui assagissent nos neuroatypies. Et vous êtes bienvenus tout au long de l'émission d'ailleurs à nous téléphoner si vous avez des témoignages pour parler de votre rétablissement ou de votre non-rétablissement. Pour parler un petit peu, vous allez suivre un petit peu ce que... On va aborder différentes thématiques ce soir avec différents invités. Donc n'hésitez pas à appeler si vous vous sentez concerné ou si vous vous sentez pas concerné ou si nos propos vous intéressent ou vous choquent. On pourra tout à fait débattre, c'est le but. On a une heure et demie, donc on est peinard pour un petit peu aller plus profondément. Alors je vous donne le numéro de l'antenne accueil ou antenne régie. Antenne régie. C'est le 04 91 08 28 10. Voilà, si vous appelez, le premier qui appelle a gagné un kilo de bonbons. Le deuxième, un kilo de médicaments gratuits. Voilà. Alors, avec nous, nous avons... à ma droite, il y a Marlène, qui est ingé son, un formidable ingé son. Bonjour Marlène.
Une sorte d'ingé son.
ensuite, nous avons Alexandre Farcy. Alex, est-ce que tu m'entends ?
Je t'entends, ouais, 5 sur 5.
Super. Il y aura Sonia Suez. Excuse-moi, c'est ça ? Non, c'est pas ça.
Oui, c'est ça.
Waouh. Ok, ensuite il y aura Sakharine, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
C'est super. Bonsoir. Et Héloïse Bompard.
Présente.
Voilà, merci. Au fond de la classe, comme d'habitude.
Pas du radiateur.
on va essayer de parler un petit peu de nous. Alors voilà, nous avons un plateau où nous sommes. Je pense qu'un peu, on est quasiment tous passés par l'hospice. Nous sommes tous sous médoc ou avons connu la médicamentation. La supériorité des psychiatres qui, soi-disant, ont tout compris à nos mots et qu'il faudrait suivre à la lettre. Mais voilà, nous essayons de... Enfin, nous avons pu dans nos expériences, rencontrer des difficultés ou des certaines petites contestations qu'on avait envie de mener face à certains psys. On n'a parfois pas réussi. Parfois, le psy nous dit « prenez ça, vous verrez, ça fait du bien. Nous, ça ne nous fait pas du bien, on ne sait pas comment faire. » Les droits des usagers, donc, un thème dans lequel qui va revenir très souvent à Radio Soin Soin, donc c'est un peu le nom de notre émission, qui va revenir souvent, c'est comment se défendre face à l'institution de soins. Alors bon, c'est sûr, les gens ont des bonnes intentions, ils veulent qu'on guérisse, ils veulent nous faire du bien, mais parfois ils ne se rendent pas compte des bêtises qu'ils font aussi, et parfois ils oublient de nous demander notre avis, ce qui est quand même un petit peu dommage, un petit peu infantilisant et paternaliste, ça nous met un petit peu dans une situation pas très agréable. Alors on va essayer un petit peu de remettre, à travers dans cette émission, l'usager au centre un peu de son rétablissement, au centre des préoccupations, car l'usager, quand moi je dis usager, c'est-à-dire une personne qui est, qui a un quotidien avec la psychiatrie, qui a un quotidien avec ses souffrances mentales, qui doit aller voir un psy, qui doit prendre des médocs, qui doit se faire hospitaliser, qui doit subir, qui doit dire aux gens qu'il ne peut pas travailler parce qu'il a l'AAH, l'allocation adulte handicapé, mais en même temps il va bien, il peut marcher, alors pourquoi il a l'AAH lui? Bah oui, mais c'est invisible, mais j'ai un problème psy. Ah bah super, ça crée un peu. C'est tous ces systèmes de difficultés que l'on rencontre lorsqu'on est usager en psy qui fait que, en fait, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à sortir. Je pense que les auditeurs de Radio Galère, vous avez aussi certainement des choses à dire dans vos parcours. Donc n'hésitez pas à appeler. Voilà, alors il y aura peut-être diffuser des choses que nos amis présents ici ont amenées.
Peut-être qu'on peut, je sais pas si chacune veut se présenter.
Oui, on va faire un petit peu ça, on va peut-être je pense que alors c'est un petit peu, c'est comme c'est la première émission, ça va être un petit peu, à la rasbaille, comme on dit à Marseille. Les invités vont se présenter un petit peu les uns après les autres, puis expliquer un peu ce qu'ils font, et après on va un peu, ça va certainement alimenter certaines questions. Donc on va commencer avec le mystérieux Alexandre Farcy. Présente-toi, mon ami.
Ok, du coup moi c'est Alex, je milite à Advocacy, donc c'est une association d'usagers en santé mentale depuis quelques années. Je pense qu'on reviendra un peu.
Attends, excuse-moi, c'est quoi la couleur de ton micro? C'est parce qu'il faut que je mette plus fort, parce que tu parles pas fort avec ta petite voix là.
Je peux me rapprocher du micro.
Ah voilà, super. Mieux, là ouais, là c'est super. Ouais, c'est bon. Pas si près, mais voilà.
D'accord, ok. Donc je suis à Advocacy depuis quelques années. Donc c'est une association d'usagers en santé mentale qui lutte contre la déstigmatisation, enfin pour la déstigmatisation de la maladie mentale, la souffrance psychique, on appelle ça un peu comme on veut. Voilà, et je suis les activités de Soin Soin depuis la création de la revue.
Alors oui, parce qu'il y a une revue Soin Soin en fait. Cette émission à Galère, elle a été un petit peu, je prends le vocabulaire, c'est dur quand on n'a pas de vocabulaire et qu'on arrive. En plus, j'ai bu une bière, donc j'ai la langue pâteuse. Donc bon, bref. Donc en fait, il y a une revue préexistante en version papier et PDF sur Internet qui s'appelle Soin Soin. Vous pouvez aller le voir sur soinsoin.fr qui reprend un petit peu ces mêmes thématiques de défense des usagers, de parler d'alternatives à l'hospice. Donc Radio Galère, ils ont gentiment voulu nous accepter quand on leur a proposé une émission sur la psychiatrie. Du coup, on a retenu Soin Soin, donc ça s'appelle Radio Soin Soin pour l'instant, mais bon, c'est pas mal, peu importe le nom. Mais donc Alexandre aussi est trésorier de l'association Soin Soin, c'est ça?
Tout à fait, ouais.
Un super trésorier, que je peux l'appeler le dimanche soir, il est super cool. Et tu es aussi trésorier de Advocacy?
C'est ça, précisément, ouais.
Mais qu'est-ce Advocacy?
Advocacy, est-ce qu'on finit pas le tour de table et puis après...
Après on reprend par toi?
Bah par moi ou par quelqu'un d'autre, mais...
Ok, allez, c'est parti, vas-y, okay. Faites.
Ça te va?
Très bien, très bien.
Ça vous va? Ouais.
Allez.
Ben moi, c'est Sonia, j'ai ouvert un GEM Advocacy aussi, je suis avec Alexandre.
Alors c'est quoi un GEM?
C'est un groupe d'entraide mutuelle.
Ok.
C'est fait pour rompre l'isolement, partager les expériences communes, etc. pareil, sous les couleurs d'advocatie, parce que c'est ma philosophie, et je suis représentante d'usagers et usagers moi-même.
Ok.
Donc, voilà.
Groupe d'entraide mutuelle, donc, c'est pour les personnes qui ont un quotidien avec la psychiatrie et qui se regroupent, c'est ça, ensemble ?
Voilà, et c'est financé par l'État grâce à la loi 2005.
Ok.
Et on se rejoint tous, moi je suis père aidante, et on fait des activités, on partage notre quotidien, nos galères, les médicaments, on en parle, on fait des...
Ok, cool.
On sort des sorties qui n'étaient pas possibles pour nous par rapport à notre pathologie.
Ok.
Mais là, maintenant, c'est devenu possible et gérable entre nous.
Ok, super. Tu vas nous expliquer plus amplement après. Ensuite, on a donc Sakharine.
Oui, alors du coup, bonsoir.
Bonsoir, Sakharine.
Donc moi, j'étais étudiante au Beaux-Arts, là, je viens de finir l'année. Je fais des peintures, des poèmes, des vidéos sur la maladie mentale. Et ce soir, surtout là, pour parler de... troubles borderline, je travaille aussi sur la toxicophobie, l'addiction et les comorbidités entre ça, par exemple, notamment le trouble borderline et l'addiction qui sont vachement liés. Et donc voilà, là, j'ai amené mon petit recueil de poèmes pour lire quelques trucs.
Formidable, formidable. Et Héloïse, donc, qui arrive, qui est la dernière de la classe au fond.
Je suis là.
Ouais, présente.
Moi, c'est Héloïse.
Ouais.
Dans la vie, on a dit ce qu'on faisait dans la vie, c'est ça ?
Non, une petite courte présentation.
Là, ce soir, avec Sakharine, on va parler un peu de ce qui nous concerne et ce qui nous touche, c'est-à-dire les violences institutionnelles, les médocs ou la toxicophobie. On va le prendre sous le prisme de la psychiatrie parce que ce serait trop long de parler de toxicophobie. D'un sens large. Et on va rappeler un peu quelques notions, d'après notre prisme.
Ok.
Et voilà, accompagné de petits poèmes de Sakharine qui parle directement de ça.
Et de musique.
Ok, très bien. Peut-être on peut faire. On peut mettre peut-être une musique que vous nous avez filée, ou alors on met la musique d'Alex, enfin une petite pause musicale. Tu mets. Super.
On peut mettre ta musique Chapiteau, elle est pas mal pour commencer.
Ouais. Plutôt Chapiteau, ouais.
Chapiteau, c'est quoi Chapiteau ?
C'est une musique de.
C'est 20 Cent Chapiteau.
Héloïse avec Zouzou.
Tu l'as, Marlène ?
Non, il faut m'expliquer.
C'est
dans l'autre.
Ok,
Radio Galère, Chapiteau. On l'a, super.
C'est parti. Alors, gros bisous, Zouzou.
Allez, Chapiteau. On se reprend tout de suite après. C'est celle-là. Vas-y, mets play. Vous vivez avec nous nos instants techniques. si tu pars.
Dans mon chapeau. fait des petits copains dans mon chapiteau qui me sert le cerveau. Qui me sert le cerveau. Y'a tout un tas de persos, un petit gros fait du yo-yo. C'est un vrai cirque là-haut dans mon chapiteau. Je vous raconte pas les propos. Tous les jours j'ai le faux mot dans mon château. Qui me sert de cerveau. J'ai pas vraiment de garde-fou. Je fais la fête avec mes poux. Je fais la fête au fond d'un trou dans mon chapiteau. C'est un rodéo. Je vous raconte pas la rando de 100 km à pied pour une pensée mal fanée. De la drogue à gogo, des copains trop rigolos dans mon chapiteau.
Chapeau, il y a des poules, des oiseaux, des oiseaux, des oiseaux.
Il y a même des canards qui barbotent dans la mare.
Dans mon chapeau, il y a des mouches, des oiseaux, des oies.
Sur Radio Soin Soin avec des petits bugs évidemment techniques comme je sais bien les faire. Donc nous sommes donc vous êtes plutôt nous sommes avec vous sur Radio Galère pour parler de psychiatrie et de déconstruction un petit peu des images des préjugés. On va parler d'alternative sur aussi à l'hospitalisation. Donc Radio Soin Soin est là pour un peu remettre les usagers au centre du débat et défendre pourquoi pas leurs droits. Et revendiquer certaines notions de respect que la société, ou en tout cas les professionnels du soin et le grand public peut adopter. Ce serait chouette pour nous. Alors nous avons donc différents invités et surtout notre cher Alexandre Farcy. Donc qui est grand trésorier. Alors lui il est trésorier.
Ah non, on parle
dans...
pas là-dessus.
Non, t'es trésorier dans quand même plein d'associations autour de la psychiatrie, on sait pas pourquoi. Alors
t'aimes le fric.
Ah, on dirait voilà. Quoi. Hein. Et parle-nous plus.
Il y a pas beaucoup de sous hein.
En l'argent.
Parle-nous plus amplement recul de 30 même ouais. Pas, ouais, 30 mm de ton micro parce que ça va faire mal aux oreilles.
C'est mieux là.
Ouais, super. Okay. Et parle-nous un petit peu donc de toutes tes activités.
Non, moi je tenais plutôt surtout à parler d'advocacy.
Donc c'est quoi advocacy ?
Qui est une association donc d'usagers en santé mentale et qui existe quand même depuis 25 ans. Mmh. Donc a quand même un peu de qui est un peu rodé.
T'avais quel âge quand
Mais moi du coup. À l'époque, j'avais 15 ans, mais bon, bref.
Déjà, à l'époque, tu étais trésorier à 15 ans, c'est génial, quand même.
Non, à 15 ans, j'étais pas éloigné de la psychiatrie et du champ de la santé mentale. J'étais concerné aussi à travers une personne de ma famille. Donc, j'étais déjà un peu en prise avec ce champ-là. Mais j'avais absolument aucune implication et aucune inscription sociale ou militante dans quelconque association. Ça m'est arrivé un peu plus tard, via notamment donc Advocacy, que j'ai rencontré à la fin de mes études. Bref.
C'était à Caen, c'est ça, ça...
C'était à Caen, ouais. Alors, ouais, c'est une association nationale, ouais. Mais qui part de Caen. Sous l'impulsion donc de personnes psychiatrisées à l'époque qui voulaient se constituer en association. Et cette association s'appelait OSER. Donc ça voulait dire association d'usagers solidaires et réagissants en santé mentale. Donc un petit collectif de personnes psychiatrisées qui voulaient sortir du soin en fait, parce qu'on parle beaucoup du soin, mais en tout cas les personnes ne voulaient pas entendre le soin que dans son acception exclusivement médicale, et que le soin aussi il pouvait passer par d'autres manières de faire, et notamment de resocialiser, ça peut être aussi ça le soin. Ouais. C'est pas, faut pas voir ça qu'à travers le prisme de la médecine. Donc il y avait cette volonté là. En tout cas, c'était de sortir de l'hôpital, des structures médico-sociales, etc. Tout ce qui touchait aux soins, mais le soin dominant comme on entend de manière générale, pour juste rompre avec l'isolement, se retrouver entre pairs, faire de l'entraide. Sortir des dispositifs un peu aussi, il y avait aussi cette idée là donc c'était fin des années 90, 98-99, et donc les personnes se sont retrouvées autour de cette association et ont ouvert de manière assez informelle un des premiers groupes d'entraide mutuelle, donc plutôt un groupe d'autosupport, on va dire. Le groupe d'entraide mutuelle, après, ça a été, ça s'est institutionnalisé.
Ouais.
L'État a trouvé pas intéressant l'idée, mais en tout cas, ça désengorgeait un petit peu l'hôpital. Ouais. Donc, ils se sont dit, il y a peut-être moyen de profiter en fait de ces initiatives pour désengorger les hôpitaux, et puis derrière amener aussi trahir un petit peu la philosophie des premiers groupes d'autosupport et des premiers groupes d'entraide mutuelle, qui étaient vraiment basés sur des idées d'autogestion, d'entraide, de solidarité, etc. etc. Donc ça, c'était en 99. Donc l'asso s'est créé, le groupe s'est créé. Et puis, petit à petit, Advocacy a fait le choix d'aller chercher des sous, des subventions, et donc de rentrer un petit peu plus dans le cadre que pouvait proposer l'ARS, l'État. Ouais. Mais à l'origine, c'était vraiment une association basée sur l'autogestion. Et donc, ça a un peu changé. Maintenant, on parle de groupe d'entraide mutuelle, mais le groupe d'entraide mutuelle, ça ne veut plus rien dire, dans le sens où il y a autant de groupes d'entraide mutuelle que d'hôpitaux psychiatriques en France, quoi, avec des philosophies très différentes.
C'est devenu une institution, du coup, pour toi, ou
Non, pas. Enfin, si, on pourrait parler d'institution, mais en tout cas, il y a différentes pratiques et manières de faire dans les GEM. Il y a des GEM qui relèvent encore d'une organisation sociale de type horizontal, ça existe encore, mais il y a beaucoup de GEM où on retrouve en fait les manières de faire qu'on pouvait trouver dans les hôpitaux.
Okay.
Donc,
oui, mais ça coûte moins cher à l'État, c'est pour ça que ça a été un petit peu aussi mis en avant. Enfin,
oui, bien sûr.
Parce que tu as en fait un GEM, il y a quoi ? Il y a un ou deux animateurs qui sont parfois psy ou.
C'est ça.
Après, voilà quoi,
C'est ça. Alors qu'initialement, l'idée c'était justement de se dispenser en fait de tout professionnel. Que ça soit des animateurs ou surtout des professionnels de santé en fait. Okay. Les GEM à l'origine c'était on ne veut pas de professionnels de santé.
Okay.
En fait on veut arrêter de parler de santé mentale ou de maladie mentale. On veut juste parler d'autre chose que de la psychiatrie, etc.
Ouais, bien
et
sûr.
En fait parce que les personnes psychiatrisées ont toujours il y avait une thèse là-dessus de Anne Gols que je trouvais intéressant qui parlait du lien psychiatrique comme lien social généralisé en fait. Et qu'en fait les personnes quand elles sont prises dans le champ de la psychiatrie, le lien social aussi passe par la psychiatrie.
Eh oui.
En fait, du coup, tu ne sors jamais de la santé mentale.
C'est un peu la chronicisation des gens aussi.
Ouais, tout à fait, ouais. C'est ça. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment les professionnels de santé, non, on n'en veut pas. Les animateurs, on n'en veut pas non plus. Nous, on veut animer nos groupes, on veut être autonome dans ce qu'on apporte, dans nos activités, dans notre militantisme aussi, parce qu'il y avait aussi ce volet militant et politique. Qui existe toujours, et justement à l'époque les associations d'usagers mental ont commencé à fleurir en France.
Ouais. Avec l'UNAFAM, c'était depuis quand?
L'UNAFAM c'est un petit peu plus vieux je crois, après c'est pas du tout la même manière de...
Oui je sais, mais justement ce niveau associatif c'est y a eu quand même une sorte de... ça s'est un petit peu popularisé quoi, ce genre de groupe d'autosupport.
Ah oui complètement, oui bien sûr, ça s'est développé, et les groupes d'entraide mutuelle aujourd'hui on en a partout.
Ouais. Et Marseille, il n'y en a que 4 malheureusement, alors que...
il pourrait y en avoir
4 fois plus.
4 fois plus, ouais, 40 fois plus. Non, mais... Donc voilà ce que j'avais à dire à propos de...
Juste une petite parenthèse pour les GEM à Marseille, donc je viens de dire qu'il y en a 4. Essayez de voir dans votre quartier ou demandez à votre médecin si vous ne connaissez pas le système, mais il y en a peut-être dans votre quartier. Alors je sais qu'il y en a... je crois qu'ils sont quasiment tous en centre-ville. c'est un peu l'hypercentre, malheureusement, mais en tout cas, vous êtes les bienvenus pour les appeler, leur demander si vous pouvez aller faire un tour. Hein. C'est, généralement, c'est des gens très gentils, accueillants, qui, comment dire, c'est parfois dans un appartement, parfois dans un local, mais en fait, il y a des bibliothèques, des activités, vous pouvez vous poser, lire un livre. N'hésitez pas à les solliciter, parce que, encore une fois, rester tout seul quand ça va pas bien, c'est pas génial souvent. Donc voilà, si vous connaissez pas le dispositif, vous tapez GEM Marseille, vous aurez tout ce qu'il vous faut sur Internet.
J'ai une blague d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est un poil en dépression?
C'est Marlène Lingesson qui boit de la bière.
Un poil incarné.
Fait des blagues.
Un poil interné.
Un poil interné, c'est ça?
Un poil pubien.
Ah, parce qu'il va plus bien.
Ah oui,
c'est ah voilà. Donc voilà, si vous en avez marre de Marlène, vous pouvez appeler le 04 80 08 28 10 et vous aurez un... Au troisième appel, on la vire. ok, très bien. Et advocacy, moi je pensais aussi que c'était beaucoup sur le droit, la défense des usagers, etc.
Si, il y a ça aussi, et du coup, je vais peut-être laisser la parole à Sonia,
okay.
Camarade d'advocacy.
Ok, parce qu'il y a les GEM, mais advocacy, ouais. C'est pas un GEM, c'est plus qu'une structure qui chapeaute les GEM, c'est encore autre chose.
En fait, les GEM maintenant, si tu me permets, Sonia, oui, après je te laisse la parole. Les GEM, en fait, ils doivent être maintenant dans le cahier des charges. En fait, ils doivent être parrainés par une association, en santé mentale. Et advocacy parraine un certain nombre de GEM en France, donc notamment à Caen, en Normandie, en Bretagne, dans le Nord, en région Île-de-France, et du coup à Martigues. Qui a été donc le GEM ouvert par Sonia, à qui ouais. Je laisse la parole maintenant.
Sonia, bonjour, rebonjour.
Rebonjour, maintenant c'est juste pour ajouter qu'Advocacy, la particularité c'est qu'on est formé en droit des usagers, ouais. Et on est beaucoup être représentant des usagers, ce qu'il faut savoir qui est très important puisqu'on fait respecter la parole des personnes qui sont hospitalisées,
ouais.
Et on essaie de faire valoir leurs droits,
ouais.
Donc tout ça on est formé. Et on est complètement différent de l'UNAFAM, puisque là, c'est les parents et amis des usagers. Donc, une personne qui a des problèmes psychiatriques ne peut pas en faire partie. Et c'est un peu, dans notre jargon, on les appelle les amis des bêtes, pour aller loin. Donc,
mais on va rappeler ce que c'est que l'UNAFAM. Donc, c'est l'Union Nationale des Amis.
Des amis, de la famille, je ne sais pas, des malades mentaux, peut-être, je ne sais pas. Ça doit être dans le style, quoi.
Ils sont sollicités généralement lorsque les personnes ont un proche qui ne va pas bien et qu'en gros, ils ne savent pas quoi faire. Donc, ils aident les aidants un petit peu, c'est ça?
Ouais, en fait, à la base, ils ont été créés pour sauver la partie riche de la famille, c'est-à-dire de la fratrie, laisser les personnes à l'hôpital avec le juste besoin pour dire ils sont sauvés, ouais. Les pauvres ils sont traités,
ouais.
Et pour que l'autre partie riche soit bien garnie et laisser les fous dans les mouroirs en fait, à la base.
Okay.
Maintenant c'est eux qui ont le plus gros capital et c'est pas des usagers, donc ils parlent de nous sans nous, okay. Comme d'habitude.
D'accord.
Voilà. Et ils sont représentants d'usagers, alors que ben, on peut pas parler rémission quand on n'a pas eu le cancer, donc ça me choque un peu.
Ouais, certes.
Mais j'ai rien contre eux, quoi.
Mais c'est un peu l'association dominante en France en psychiatrie, quoi.
C'est ça, ben, parce que toutes les personnes qui veulent gérer les dits psychiatrisés, ben, ne sont pas psychiatrisées, puisque c'est nous qui avons une tare, donc on doit être géré par des gens qui n'ont pas de tare, comme les psychiatres.
Mmh.
Et ben après les psychiatres, il y a l'UNAFAM. Enfin, ils essayent de maîtriser.
Ouais.
Je ne dis pas qu'ils ont des mauvaises volontés, mais ils ne peuvent pas savoir ce qui est le mieux pour nous.
Ouais, bien sûr.
Heureusement qu'il y a les directives anticipées et tout ça, pour qu'on puisse un petit peu...
On va revenir du coup sur... Oui,
moi je ne sais pas ce que c'est une directive anticipée.
Alors,
c'est un droit qu'on a de rédiger avec les psychiatres, etc. C'est ses choix, ses voeux. En fait, en cas d'hospitalisation, quand tout va mal, quand on a une crise, une grosse crise et qu'on ne sait plus... On met en avant les médicaments qu'on ne veut pas, le traitement qu'on ne voudrait pas. Par exemple, il y a des médicaments auxquels je réalise très mal, qui vont me rendre encore plus agressive. Ben, on les note, les personnes qu'on veut qu'ils soient au courant, pas d'autres. Par exemple, moi, il y a certains membres de ma famille ou des amis, je ne veux pas qu'ils soient au courant. Il y a des médicaments que je refuse. J'essaye un maximum d'éviter la chambre d'isolement, parce que ça se passe très mal pour moi. Voilà, c'est toutes des directives qu'on essaye de mettre en avant et on essaie de les démocratiser sur Internet et par tous les moyens. Il y a une psychiatre à Marseille qui fait ça. Et j'espère que ça va bien avancer parce que ça nous donne des droits et des écrits.
Ça permet de prendre un peu de l'empouvoirement aussi sur sa maladie psychique. Ouais.
Tout à fait.
On doit reprendre un peu le contrôle des choses. Quoi.
C'est ça.
Parce tout, en ayant plus le contrôle parce qu'on est sûrement en crise psychotique.
Voilà, ça évite certaines piqûres, quoi, parce que le Loxapa plus le tertian, quand on a marqué non. Mais bon, il faut avoir les bonnes personnes de confiance à côté, quoi. Parce que... Mais bon, on commence à les respecter, de mieux en mieux.
Parce que, ouais, c'est récent, du coup, c'est récent que ce soit respecté.
Déjà, ça a peut-être 8 ans qu'on puisse les rédiger, qu'ils soient vus par des psychiatres. Mais ils ne sont pas obligatoires, encore, en France.
Mais ils font quand même valoir de droit. Hein.
Ils font valoir de droit.
Surtout la personne de confiance fait valoir de droit sur les directives anticipées.
C'est un
article de la loi, je ne sais plus
c'est
lequel.
Mais c'est dans le code de la santé publique. C'est encore les psychiatres qui peuvent décider au dernier si vraiment on est trop en crise. C'est encore eux qui ont le dernier mot.
Oui, bien sûr.
Pas dans tous les pays. La France, on est vraiment en retard.
Et c'est quel pays, du coup Enfin, qui est plus en avance là-dessus ou
Je sais plus trop, mais je sais que dans les Pays-Bas, dans tout ce qui est, je sais plus. Alex, tu peux peut-être m'aider.
Non, mais ouais, les pays anglo-saxons,
Canada,
oui,
c'est là d'où tout vient, non, un peu.
Ouais, beaucoup, oui.
Oui.
De toute façon, la paire et danse vient de là-bas.
Oui, la paire et danse,
l'empowerment aussi, tu parlais. L'empowerment,
les frappes, les.
Il fallait qu'on déménage là-bas, tous.
Ouais.
En ce qui concerne du coup les droits des usagers et advocacy, est-ce que tu pourrais dire à ceux ou celles qui nous écoutent qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ils se sentent un petit peu spoliés dans leur parcours de soins? Est-ce que advocacy peut être appelé? Qu'est-ce que tu, d'un point de vue général, qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui est usagère de la psychiatrie, qui voudrait se faire entendre d'un point de vue légal et se faire respecter?
Alors déjà, il y a le site Advocacy France.
Ouais.
Il y a la paire advocacy, mais avant tout, sur chaque hôpital, il y a le nombre de deux, et voire deux suppléants et deux titulaires de représentation des usagers, toutes maladies confondues. Donc après, on appelle une personne qui va tout de suite aller voir la personne qui s'occupe des personnes psychiatrisées.
C'est la commission des usagers, ça,
oui,
CDU ?
C'est la CDU,
okay,
voilà.
D'accord.
Il y a une personne qui va prendre en charge les besoins, les doléances, il y a les plaintes et les réclamations des personnes qui sont en difficulté.
Ouais.
Et là, ben, on doit faire respecter leurs droits, leurs paroles et leurs attentes.
Est-ce que ça marche généralement ?
Oui, on écrit à l'hôpital, on intervient, on vérifie. Et oui, puisqu'il y a des dossiers, après c'est sûr, c'est trié.
Ouais.
Mais oui, franchement, c'est vérifié.
D'accord. Et
ça avance de plus en plus.
Question pratique, vous l'avez déjà fait à la conception par exemple ?
Et moi j'étais à Martigues et au Trois-Lucs.
Ouais.
Ouais, donc, oui, j'étais là-bas.
Moi, j'ai été un peu partout aussi. Mais bon, après, malheureusement, c'est le contrôleur qui devrait passer, pas nous.
Mais du coup, ça marche dans les cliniques, mais ça marche aussi dans les établissements publics, c'est ça que je veux dire.
Oui, j'étais dans un établissement public, ça s'est bien passé. Mais après, ce qu'on fait devant et derrière, il y a la maltraitance. Elle est vraiment trop haute par rapport aux représentants d'usagers qui sont même pas à peine défrayés. Il en manque. Et les abus psychiatriques qui sont de plus en plus importants, camisole chimique.
Ouais.
Donc on n'est pas la police, quoi, on n'a pas les droits, on n'a pas les moyens.
Oui, c'est ça. Bah, donc à la fin, c'est un petit peu toujours les médecins. J'ai l'impression que ça reste toujours compliqué, hein, enfin encore aujourd'hui, de faire entendre sa parole quand on est usager.
Même en CDU, on reste l'usager, on est un peu le faire-valoir. On y reste pour dire on met un pied dedans pour y être de façon pérenne après.
Ouais.
Mais au début, on se prend un peu des claques parce qu'on est avec des médecins, des chefs de service. Ils disent, toi, tu colles à borderline du coin.
Ouais.
Il faut vraiment s'imposer, connaître ses textes.
Ça, de manière générale, j'ai l'impression, en France, on est vraiment sur un traitement des patients extrêmement paternaliste, discriminant, mais... à un point, alors voilà, la position, généralement, on se dit, les médecins, quand même, c'est des gens cultivés, des gens instruits, des grands scientifiques.
Des dominants, surtout, beaucoup.
Mais dans le sens où ils peuvent avoir un certain point de vue et intelligence face aux usagers, face aux patients, et une certaine considération. Mais en fait, ils ont, ils sont extrêmement, très souvent, très ouais, conservateurs, avec un ascendant sur tout le monde. Ils veulent être les chefs. C'est assez impressionnant, quoi.
C'est vraiment une notion d'ego aussi, j'ai l'impression.
Ben oui, c'est ça.
Mmh. C'est eux qui détiennent le savoir et toi, tu ne sais pas, alors tu n'as pas à poser de questions.
C'est très hiérarchique, tout ça.
Ouais, c'est un peu aussi le fait que... ils font tous la fac de médecine, donc en médecine on leur apprend assez tôt que c'est un peu les rois du monde, quoi. Mm-hmm. Vous êtes médecin, vous êtes l'élite, etc., etc. J'ai l'impression que ça, ils prennent la grosse tête, mais très très vite. Peut-être qu'ils l'ont déjà même avant de rentrer en fac de médecine, je sais pas.
La classe... C'est pour ça qu'ils y vont.
Ouais, peut-être aussi. C'est pas bête, hein, c'est sûr, il y a peut-être un lien là-dedans. Mais donc voilà, c'est aussi contre ça qu'on doit se battre. Nous les usagers, c'est à réussir à avoir un peu plus de parole, de poids face aux médecins qui ont un petit peu, enfin, c'est quand même délicat de... Alors évidemment, moi quand je vais voir un médecin, je me suis cassé le pied, il me dit de faire des trucs, ok, c'est cool, d'accord, je veux bien le suivre parce que je sais qu'il va s'intéresser qu'à mon pied, mon os, mon muscle, etc. Mais quand on va voir quelqu'un qui va nous donner des médicaments qui altèrent clairement nos perceptions, nos attitudes, nos humeurs, c'est difficile. On lui donne quand même une grosse partie de nous au médecin, et de devoir donner cette partie de nous à des gens qui en fait nous prennent juste pour des détraqués ou des, je sais pas, mais ça reste vraiment une problématique pour moi en tout cas qui est assez centrale. C'est pour ça que moi d'ailleurs, tous mes médecins, les psychiatres, c'est un peu des potes, quoi. Mon médecin, c'est un pote, un super, super mec. Et mon psychiatre, c'est une personne que je tutoie, que je peux aller boire des coups avec. Et voilà, il y a un rapport qui est... c'est beaucoup plus sain. Moi, là-dedans, quoi. C'est pas un médecin derrière son bureau tout propre avec la petite stylo plume et le truc d'ordonnance qui dit « Bon, monsieur, tenez, prenez ça ». Voilà, moi j'ai un peu réussi un peu comme ça à avoir un petit peu plus de poids dans les consultations, mais ça reste très très rare, je trouve, quand je parle un peu. Je sais pas si vous avez des bonnes relations avec vos médecins, vous.
Moi je m'entends très bien avec la mienne, c'est ce qui fait que je suis guérie, parce qu'on est quand même soumis à la sectorisation, faire un marching.
C'est quoi la sectorisation?
La sectorisation, c'est-à-dire qu'on est dans le secteur par rapport à là où, à notre lieu de vie.
C'est ça.
Donc moi c'était secteur 24, psy je n'ai pas choisi, je faisais 109 kilos, je marchais 5 mètres, je ne pouvais plus marcher, je n'en avais rien assuré. Jusqu'à ce que j'ai réussi à aller à Marseille dans un autre service.
Ouais.
Et là j'ai eu ma psy qui est partie de ce service, je l'ai suivie à l'autre bout du département on va dire.
C'est précieux. Mais, un bon psy.
Voilà, c'est tellement rare, parce que sinon c'était cachot, chambre d'isolement, les petits clopixol alors que je ne suis pas psychotique, allez, encore 4 petits Valium, je ne marchais plus, je bavais, ils s'en foutaient quoi.
Ouais.
J'ai mis mon mal-être, il va que vous m'avez fait prendre 40 kilos, il s'en foutait. Allez, on continue.
Okay.
On endort encore un peu. Allez.
C'est terrible, ça.
Et on m'a dit non, vous habitez Martigues, vous restez là.
L'errance thérapeutique aussi, c'est vraiment.
Ouais, c'est dingue.
C'est un gros truc. Alors là, effectivement, il y a l'antenne, il y a le téléphone, vous pouvez nous appeler. Mais si vous avez des questions aussi, si vous envoyez un mail à contact@soinsoin.fr, on peut vous répondre aussi. Je ferai circuler au crew. Et voilà, n'hésitez pas aussi, si vous êtes plus à l'aise par l'écrit, contact@soinsoin.fr. Mais oui. C'était quoi, cette sorte d'errance thérapeutique? Mais ça, en fait, trouver un bon psy, c'est déjà un truc en soi, quoi. C'est pas genre, va voir un psy, allez, ça va aller mieux. C'est, tu vas voir un psy,
va voir un bon psy, ouais. Mais j'ai une amie qui me disait que c'est aussi le système, en fait. Souvent, c'est pas un choix, en fait. Les psys, en fait, enfin voilà, ils choisissent pas en fait forcément quoi, c'est selon leur classement en fait. Enfin quand t'es, enfin c'est ce qu'on m'a expliqué il y a pas très longtemps quoi. Et ben en fait si t'es super bien noté, tu vas être chirurgien. Enfin tu vois.
Ah oui, ça c'est en médecine, oui.
Et voilà, et du coup il y a effectivement.
Ah oui, le psy c'est un peu
le mouton noir quoi.
Ouais, c'est ça exactement. Voilà. Ouais.
Et du coup j'imagine aussi c'est le plus rabaissé, le plus... voilà. Et puis c'est aussi, oui, du coup, des gens qui n'ont pas du tout...
Tu veux dire qu'ils choisissent pas? Ils n'ont pas choisi, ceux, parfois?
Bah non, ils se retrouvent là parce que... Enfin, voilà.
Mmh.
Et donc, il y en a certains, oui, ou certaines qui ont... décidé d'être psy avant, en faisant les études de médecine, mais j'imagine que sur... Le nombre, c'est pas beaucoup. Enfin, je sais pas, je te vois.
Si, c'est pas du tout une vocation en fait, psychiatre. Et ouais, c'est le dernier choix que font les médecins, enfin les étudiants en médecine.
Ça, alors ouais, vous me l'apprenez, ouais.
Si. C'est...
À chaque fois que j'ai eu des rendez-vous, je me suis demandé s'ils voulaient vraiment faire ça. En fait. ça se ressent en fait. Même là, moi, ça fait un an. Moi, je suis dans une situation là, je savais même pas que c'était possible. Ça fait presque un an que je suis sous paroxétine alors que je suis plus suivie en psychiatrie parce que mon dossier il est abandonné par la dernière psychiatre qui s'est barrée parce qu'ils échangent tous les 6 mois là, et au lieu de transmettre mon dossier à la personne d'après comme d'habitude, elle a juste abandonné.
Psychiatre de quel qui est en libéral ou
c'est à l'HP à la conception.
Ok.
Et en fait du coup j'ai pas réussi à les avoir au téléphone pendant des mois, j'ai appelé tout le temps. Et le jour où je les ai eus, ils m'ont dit qu'il faudrait attendre 3 mois et tout. Alors qu'à
pour avoir un rendez-vous avec un psy.
Ouais, mais comme si j'étais nouvelle en fait. Ouais. Et moi, ça fait un an que mon ordonnance pour un antidépresseur qui est quand même lourd, ouais. Je l'ai par des rendez-vous en visio avec des médecins généralistes que je connais pas en 10 minutes.
Ouais.
Là, j'en ai plus depuis aujourd'hui, il faut que je fonce. Demain, il faut que je trouve un rendez-vous pour en avoir un. Quoi.
Ouais, je connais ça.
Alors que je prends des doses au pif, hein, je suis plus suivi.
Il faudrait que. Moi, j'ai un psy là. Mon psy d'ailleurs, il a ouvert un centre à Marseille pour les jeunes, vers la place Sébastopol. Ils sont cool. Moi, peut-être que je pourrais te donner.
Bah ouais, pourquoi ? Parce que là, j'ai réussi à les avoir, j'ai eu pour août. Mais. Puis aussi, si on a besoin de traitement, c'est qu'on n'est pas forcément en mesure d'appeler. Moi, il y a des moments où je pouvais pas appeler. Parce que je fais de l'hypersomnie, des fois je me réveille et c'est la nuit. Et au final, le jour où je dors, c'était vraiment compliqué.
Ouais, c'est,
c'est pas normal.
Et du coup, comment tu fais quand tu as cours de médoc comme ça? Tu vas faire encore une visio là?
Bah, j'appelle du moment qu'on montre une ancienne ordo, franchement, ils donnent tous. Mais ça aussi, je sais pas si c'est bien ou pas.
Les pharmaciens?
D'un côté, ça dépanne. Ça m'est arrivé en pharmacie de pouvoir y aller sans rien, parce qu'ils me connaissent.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Mais les médecins, je trouve n'importe quel médecin sur internet, si je lui montre une ordonnance d'il y a 3 mois d'un autre généraliste. Ça marche, mais en fait, c'est-à-dire que je pourrais faire ça toute ma vie sans aucun problème, alors que ça pourrait faire des années que j'ai pas vu un psychiatre, quoi.
Ouais, bah ouais, c'est pour ça que généralement ils le font pas trop, ou alors ils te demandent de si tu vas avoir un psy. Ouais. Mais ça aussi, c'est quand moi ça m'est arrivé plusieurs fois de plus avoir de médoc, et je me dis allez, j'en ai pas demain, c'est pas grave, je peux sauter un jour. Généralement, tu peux le faire, mais ouais, mais moi c'est le deuxième jour, je sens déjà les effets du sevrage, et je suis un peu dans tous mes états, donc je cours un peu dans toute la ville, dans des pharmacies. Alors les pharmaciens qui te voient arriver sans ordonnance, sans rien, parce que tu l'as perdu, et du coup ils veulent pas te donner un médicament ultra générique, ultra classique. Enfin bon, voilà, c'est assez. C'est, ça aussi, encore une fois, c'est une position avilissante, enfin dégradante, où tu dois arriver voir un pharmacien ou un médecin en disant s'il vous plaît, je voudrais mon traitement. Alors que putain, c'est des médocs.
Là, on peut faire les liens avec la toxicophobie.
Ouais, aussi, ouais, bien sûr. Mais donc voilà, c'est un truc assez difficile, moi je trouve. Putain, c'est vous qui me mettez me mettez addict de cette molécule, de ce médicament, et après vous voulez encore que je vienne vous supplier de la prendre, quoi. Ouais. C'est incroyable, quoi.
Non, j'ai passé des après-midi comme ça à errer dans les pharmacies. J'étais là, mais c'est fou d'en arriver là, quoi.
Ouais. C'est ça, quoi.
Il y a même les ordonnances sécurisées. Par exemple, le méthylphénidate pour les TDAH que je prends, non seulement il est payant si tu ne l'as pas depuis que tu es petit, donc tu en as pour 50, 100 balles, et en plus il faut mettre dépassement, basculement d'ordonnance, je ne sais plus trop quoi, et il est au coffre dans stupéfiant, quoi.
Okay,
tu envoies ton gosse le chercher, stupéfiant, tu es grillé.
Ah putain.
T'as trop honte d'aller chercher tes médicaments, je te promets. Tu as le sachet avec les stupéfiants et tout.
Ah ouais, ouais. C'est chaud quand même. Hein.
L'ordonnance valable 48 heures, c'est la honte.
Ouais, mais voilà, c'est le genre de choses qui font que nos vies sont quand même assez difficiles, quoi. Alors que c'est pas grand chose, quoi. Mais ils s'en foutent complètement, c'est pas leur.
Pour eux, c'est des amphétamines.
Ils sont pas formés pour ça. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont à foutre que tu aies un sachet. Et du coup, par rapport. C'est vrai que Marlène nous disait que vous voulez parler de toxicophobie, entre autres, Héloïse et Sakharine. Vous avez amené un petit peu des. Vous avez même une petite rubrique, tu me disais, Héloïse, où vous voulez parler de quelque chose en particulier?
Bah oui, peut-être. Là, si on voulait parler de toxicophobie, peut-être qu'on peut mettre une petite chanson pour faire une
pause. Alors, moi, je vais faire une petite pause. On va faire une petite pause avec, si vous permettez, un extrait d'un film qui est vraiment génial. Vous pouvez le taper sur YouTube, il est en libre accès. Ça s'appelle Histoire autour de la folie. C'est en deux parties. Là, c'est la partie 1, je vous mets un extrait. La partie 2, j'ai essayé de la retrouver aujourd'hui, elle n'y est plus. Mais voilà, c'est super intéressant. C'est l'histoire de... Ça reprend un peu l'hôpital psychiatrique de Villévrard, qui est à faire Paris, là où il y a eu beaucoup de gens qui sont passés là-bas, Camille Claudel, entre autres. Et donc, la première partie reprend toute l'histoire de cet hôpital. Et la deuxième partie, l'histoire plutôt contemporaine. Là, je vais vous mettre un morceau de la première partie. Alors, Marlène, est-ce que tu peux appuyer sur play? Et on vous laisse et on se reprend juste après.
C'est les concours publics d'architecture. Sur quel type de construction on a les pouvoirs, sur quel modèle on a les pouvoirs soigner les gens. C'est toujours dans la symétrie, côté homme, un côté femme. Et les grandes classifications de malades, on les retrouve. Hein. Donc il y a la partie des aliénés, la partie des alcooliques, et puis les habitations du personnel. Parce que l'idée à l'époque, c'était quand même de centraliser sur Villévrard tout ce qui existait dans la vie. L'idée principale de ce moment-là, c'était de créer des lieux de faire semblant. C'était des lieux dans lesquels on allait faire semblant de vivre comme ailleurs. C'est-à-dire qu'on y avait la ferme, on avait la porcherie, on y faisait le pain, on y vivait, on faisait tout
on
ça.
Vous les voyez quand ils allaient planter leurs pommes de terre, ils avaient des cochons, ils avaient tout ça.
Oui, c'était un village.
Tout le linge des malades et tout ça, c'était lavé à la main. Alors c'était pas drôle, hein. J'avais des draps. Pour voir le linge qu'il y avait, il y avait la maison de santé, il y avait l'asile, hein. Ah, il y avait des malades qui aidaient, hein. Il y avait des malades qui nous aidaient, oui. Des hommes surtout.
La seule détermination duquel on peut retrouver trace, c'est des espèces de fantasmes un petit peu fous. Par exemple, on disait que les lieux de la folie devaient être construits là où les vents dominants ne risquent pas d'envoyer sur la ville les miasmes de la folie. C'était l'utopie, c'était la grande erreur de ce moment-là. Comme si il suffisait de mettre les fous en dehors de la ville pour que la cité vive en paix. C'était le modèle de l'exclusion. C'est vrai que le lieu était construit sur des modèles préexistants, qui étaient le modèle carcéral, c'est-à-dire qu'il fallait enfermer pour soigner, et il fallait surtout pas que ça sorte de là. Hein. Donc c'était l'établissement, autour de l'établissement, un trou, des criages, etc. L'idée, de toute façon, c'était permettre une surveillance ininterrompue des sujets. Ils prenaient les mots, d'ailleurs, les mots théoriques de l'époque, c'était les sujets dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui, hein, qui restent toujours, d'ailleurs, dans la loi. Les pavillons de traitement. C'est-à-dire que là, il était bien question de traiter la folie. C'était vraisemblablement la maison de santé. L'objectif était de persuader les gens que les gens y étaient bien traités. C'est vrai qu'au niveau esthétique, c'était tout à fait convenable. Au niveau de la qualité des soins, ça, c'est autre chose. Il n'y avait pas d'idéologie commune dans les soins. Là, on protégeait l'individu de sa famille. Enfin, c'était sur ordre de la famille ou sur conseil de la famille ou sur désir de la famille que les gens étaient hospitalisés. C'était des gens qui étaient... vraisemblablement riche. Hein.
Vous avez la partie état civil. Elle a été hospitalisée à la demande de sa mère. Admise à Villévrard le 10 mars 1913, en ce qu'on appelait à l'époque un placement volontaire, selon la loi du 30 juin 1838. Elle était à la maison de santé, puisque à Villévrard à l'époque, il y avait les malades payants. Et le régime commun, ce n'était pas les maths qui payaient. Je sous-signais, docteur en médecine de la faculté de Paris, certifie que mademoiselle Camille Claudel est atteinte de troubles intellectuels très sérieux, qu'elle porte des habits misérables, qu'elle est absolument sale, ne se lavant certainement jamais, qu'elle a vendu tous ses meubles, sauf un fauteuil et un lit, qu'elle passe sa vie complètement renfermée dans son logement, les volets étant hermétiquement clos, que depuis plusieurs mois, elle ne sort plus dans la journée, mais qu'elle fait de rares sorties au milieu de la nuit. Que d'après des lettres écrites tout récemment à son frère, d'après des propos tenus à la concierge, elle a toujours la terreur de la bande à Rodin, qu'elle se figure être persécutée, que son état, déjà dangereux pour elle, est également dangereux pour ses voisins, et qu'il serait nécessaire de l'interner dans une maison de santé. Paris, le 7 mars 1913, signé docteur Michaud.
Qu'est-ce que c'était le travail de l'infirmière ?
C'était des femmes de ménage, plutôt qu'autre chose. On travaillait très, très dur parce qu'il n'y avait pas de soins. Mais enfin, on s'occupait quand même des lits et puis de la toilette des malades. Hein. Mais il fallait les garder, les malades, quand même. Il fallait les surveiller.
Nous revoilà donc sur Radio Galère 88.4. Sur l'émission de Radio Soin-Soin, on va parler donc de psychiatrie. On parle de psychiatrie depuis 9h30 jusqu'à 23h. Ça va être une émission mensuelle tous les 3e lundis du mois. Donc, encore une fois, pour parler de tout ce qui est autour de la vie de nous, usagers de la psychiatrie. Et pour ce, nous recevons différentes personnes ce soir. Et là, je vais laisser la place donc à Héloïse et Sakharine qui ont des choses à nous dire, qui ont préparé des différentes choses sur la psy et la santé mentale.
Bon, on va commencer par lire un poème de Sakharine pour introduire un peu notre thème sur les violences institutionnelles, les médocs et la toxicophobie en psychiatrie.
Donc, c'est un poème qui a été écrit après plusieurs rendez-vous, que ce soit notamment d'urgence ou des rendez-vous même avec des médecins généralistes où j'ai pu subir des violences, des discriminations par rapport à l'addiction et au fait que ce ne soit pas forcément pris comme un vrai trouble mental. Okay. Voilà, donc ça peut être un peu hard, bon, je préviens, c'était un peu, j'ai vidé quoi, ma colère.
D'accord, donc âme sensible, faites attention, mettez votre doigt sur le bouton de volume de la radio si c'est trop bon, difficile. Alors,
il n'a pas de titre, mais du coup je commence. Donc. Là, le docteur se moque de moi parce que je suis une droguée. Là, le docteur ne m'écoute pas et elle me fait peur. Je lui pisse au cul quand même et lui tire la langue. Je lui dis « Va chier, sale merde !» et vais braquer sa banque. Avec ses sous, j'irai m'acheter de la drogue et quand je perdrai mon foie, je lui enverrai par la poste. Je lui dirai « C'est pour toi. » La médecine tue les drogués. Pas de recherche, pas de dialogue. Mon docteur a pris mon foie, ma vessie et mon cœur. Qu'elle s'en fasse un collier avec. Que les docteurs m'enterrent, au moins je ne les verrai plus. Et ça fera des jolies fleurs. Et ça fera des jolies fleurs.
Merci beaucoup.
Donc on peut commencer par rappeler
le terme toxicophobie. Ouais, c'est pas un mot que tout le monde connaît forcément. Tu veux le dire ou je le dis ?
Non, c'est les violences ou micro-agressions ou agressions qu'on peut subir au quotidien. C'est la discrimination envers les personnes qui consomment des toxiques.
Voilà, donc ça peut venir, là on va parler notamment surtout dans le milieu hospitalier, après ça peut venir même parfois des personnes qui consomment elles-mêmes, c'est un truc très, ça peut être très bien intériorisé ou autre. Et c'est vrai que chaque personne que je connais qui a des problèmes d'addiction a déjà eu des problèmes comme ça, de discrimination avec le milieu médical, notamment Héloïse qui peut citer un exemple qui lui est arrivé par rapport à ça.
Dans une clinique dont je tairai le nom.
T'es pas obligé.
Ah oui. ils n'ont pas voulu me faire entrer en hôpital de jour parce qu'ils ont dit que j'avais des addictions. Et du coup, ils voulaient que je me soigne d'abord du produit pour pouvoir rentrer dans un procédure de soins. Sauf que, comme on l'a répété...
C'est un vrai trouble, quoi.
Ça fait partie du trouble borderline, c'est d'avoir une comorbidité pour les addictions. Donc je ne pourrais... En fait, l'un ne va pas sans l'autre.
Ben ouais.
Donc ils étaient là, tant que vous êtes sous-produit, on ne vous prendra pas en soin. Ouais. Donc autant vous dire, j'ai claqué la porte.
En refusant ça, en fait, ils refusent aussi, déjà d'une part, ton trouble psy déjà de borderline, donc déjà ça c'est un problème. Enfin, ils refusent un tas d'autres trucs, en fait. Et même s'ils refusaient que ça, c'est vrai.
Est-ce que tu peux pas, du coup, aller en addicto
Bah si, alors là, le gros truc, c'est le XAPA.
Ouais.
Et là, c'est 3 mois de rendez-vous.
Alors XAPA, c'est quoi déjà?
C'est un centre d'addicto... avec des médecins, des infirmiers, des infirmières, des cadres, des psys qui sont là pour... Ça dépend vraiment des XAPA, c'est pareil comme on disait, ça dépend vraiment des structures différentes. Là, j'ai eu mon premier rendez-vous ce matin, au bout de 3 mois d'attente.
Ok.
Et ça s'est plutôt bien passé. Je suis tombée sur une petite dame que j'embrasse, très mignonne.
Ok, cool.
Enfin, j'avais un peu la trouille parce que je sais que je me suis déjà retrouvée... face à des gens qui ne comprenaient pas les addictions et qui étaient dans un processus de sevrage, alors que moi je ne suis pas là-dedans, je suis plus dans une politique de RDR, de réduction des risques, d'essayer de me trouver des tricks pour pouvoir gérer cette consommation au quotidien et qu'elle ne vienne pas, et qu'elle ne prenne pas l'ascenseur, je ne sais même pas comment on dit, les escaliers. L'esprit d'escalier.
Mais c'est quel XAPA du coup qui est si bien ?
Qui est si bien. Je viens de tester. J'ai mon premier rendez-vous aujourd'hui avec XAPA Puget.
Puget, d'accord.
Voilà. Après, ça dépend sur qui tu tombes.
Voilà, ça dépend chance, vraiment. Là, il paraît que c'est. Elle m'a dit que la. Avant, c'était une peau de vache et maintenant, je suis tombée sur une gentille.
T'as eu de la chance, quoi.
Et elle m'a dit tous les méchants sont partis. Du coup, j'ai dit bah merci.
C'est cool, c'est cool. Elle s'appelle comment la dame gentille
Ah, je me souviens plus de son nom. Tu sais, je dissocie une fois sur deux.
D'accord.
Mais c'était où, du coup
C'est que ça pas Puget, qui se trouve cours Puget. Ouais. Okay. Mais voilà, il faut pour un rendez-vous, le truc, c'est qu'il faut attendre 3 mois, quoi. C'est assez.
Pas faire d'overdose a... trop de temps.
Non, voilà. Mais c'est pour revenir là-dessus, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a un manque, on parle de ça, mais c'est qu'il y a un manque de moyens, il y a un manque d'informations, il y a un manque de personnel dû à ce système qui veut pas filer de rond à l'hôpital public et qui sont en train de les faire crever à petit feu, quoi. Du coup, ils n'ont pas le temps, ils prescrivent des médocs à tire-larigot et il n'y a aucun dialogue. Là, au XAPA, c'est la première fois dans toute mon errance psychiatrique qu'on me propose une psychothérapie, en fait.
Ah
oui. Oui. Et c'est la première fois que j'entends ce mot de la part des médecins en mode bah oui, il vous faut une psychothérapie. Et je me dis bah oui, Einstein, c'est ça. C'est ça que je cherche depuis 20 ans, depuis maintenant plus de 10 ans. Quoi.
Pas mal de temps.
D'accord. Ouais. Et à travers les psychiatres, même en libéral, t'as pas réussi à trouver des bons psychologues qui étaient.
Non, j'ai jamais trouvé quelqu'un de psychologue. J'ai eu une psychologue à un moment, mais elle était dans le libéral, mais ça matchait. Mais en même temps, j'avais l'impression de lui apprendre plein de choses. Et c'était un peu.
C'est tellement énergivore, quoi. Genre, ouais. T'as déjà des problèmes à gérer, tu dois en plus instruire le corps médical ou enfin.
Parce ouais. Qu'ils sont pas formés. Enfin, ils sont
y a pas. Je sais que dans les études de médecine, il y a même pas de. Enfin, ils sont pas informés sur rien que les addictions et tout. Genre, je crois pas qu'il y ait de.
Là, par exemple, j'ai appelé un infirmier cette nuit pour avoir des nouvelles d'une copine et j'ai dit oui, qu'est-ce que vous pensez de l'open dialogue et comment est-ce qu'on pourra mettre ça en place. Il était là, qu'est-ce que c'est que l'open dialogue. C'est-à-dire qu'ils sont pas informés, ils sont pas du tout aussi informés des alternatives autres ouais. Parce qu'ils sont hyper ancrés dans le système.
Ouais, l'open dialogue, c'est une nouvelle forme de psychothérapie.
En santé communautaire.
En santé communautaire, ouais, ouais. Qui justement
place le patient
assez au centre et qui refuse un peu les médicaments, qui propose une alternative assez radicale par rapport au système classique. Et donc tu dis que ces gens, ouais, les gens ne sont pas au courant, évidemment, sont mal formés. L'infirmier que tu as appelé cette nuit, il ne connaissait pas cette méthode, par exemple.
Oui, après, j'ai tombé sur un infirmier assez mignon de nuit qui était là, le pauvre, il n'était pas rien, mais. Mais oui, du coup, on a un peu parlé, un peu tchatché de ce que c'était que l'open dialogue, et je me suis retrouvée à parler avec un infirmier de nuit, à lui expliquer un peu ce que c'était que la santé communautaire, qu'est-ce que c'était que l'antipsy, qu'est-ce que c'était que l'alternative à la psychiatrie. Et il ne savait pas que ça s'organisait à côté, pas autour, ça s'organise à côté des institutions. Parce ouais. Qu'en fait, les institutions, on ne peut pas leur faire confiance. Les violences, elles sont trop fortes, qu'elles nous font subir. Du coup, il faut s'organiser autrement.
Ah oui, c'est terrible, hein, le manque d'argent dans les hôpitaux publics.
Bah là, il y a encore l'hôpital Nord qui est en train de faire fermer sa section psy. Du coup, il n'y a plus qu'une urgence psy à Marseille.
Le CAP 112, c'est fermé. Il va fermer le.
Il y a quand le CAC 40, là, comme je les appelle. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Les urgences psy de Jean-Marc Rouillant, là. À la Timone.
Jean-Marc Rouillant.
Je sais pas, je m'oublie toujours son nom.
Jean-Marc Henry.
Ouais, c'est ça. Mais il est tout rouillé, lui. Il est rouillé du ciboulot.
Ah oui, c'est vrai, oui. D'accord, oui, la Timone, les urgences de la Timone, oui, il y a les
mais
urgences.
Mais oui, mais ils ont fermé à l'hôpital Nord les urgences aussi, du coup, il n'y a plus que
les. Il y a plus que ça pour tout Marseille, là.
Bah, j'ai l'impression.
Ah ouais, d'accord.
C'est le bordel.
Ouais, donc
bordel innommable.
Si vous décompensez en pleine nuit ou n'importe quand, que vous arrivez à vous rendre. Si vous ne savez pas où aller. Allez donc à la Timone, donc aux urgences psy, ou alors appelez le 15. Hein, si vous êtes vraiment mal chez vous, n'hésitez pas à appeler le 15 en disant que vous vous sentez en danger.
Et après, en prévention de tout ça, et ben, ce qui est génial, c'est que c'est ça, c'est qu'il y a des groupes de parole, il y a des groupes d'entraide, il y a les directives anticipées pour justement essayer d'éviter l'hospitalisation et l'institut.
C'est ça, ça va être.
Et d'entrer dans les instituts, parce qu'une fois qu'on y est, on est foutu. Ouais. Quoi.
Aujourd'hui, là, il nous reste une demi-heure, on pourrait aborder. Ça va être aussi un des points de Radio Soin-Soin, entre guillemets, dans le sens où. On va revenir donc mensuellement sur toutes ces méthodes d'alternatives qui sont alternatives à l'hospitalisation psychiatrique. Donc, parce que Marseille, qui est une ville difficile au niveau de la précarité, forcément donc porte en elle un grand potentiel de souffrance psy. Oui.
J'ai une amie que je salue, que j'aime énormément, qui dit que Marseille, c'est un HP AM à ciel ouvert.
Ouais, on dit ça.
Et maintenant, on en a réfléchi. Voilà.
Ouais, bien sûr. Mais donc, par rapport à ça, par rapport au fait que Marseille a des grosses difficultés au niveau psy, il y a quand même des gens intelligents qui ont fait médecine et qui ont décidé de réfléchir un petit peu à la question des alternatives à l'hospice, c'est-à-dire pas forcément hospitaliser tout de suite les gens, pas forcément les mettre, les cachetonner, etc. Donc c'est des hospitalisations à domicile, des associations, des choses comme ça. Et on va essayer, donc déjà sur le site soinsoin.fr, vous avez une sorte de... Il y a une page de lien, vous pouvez aller voir dessus, il y a quand même pas mal de... Il y a quand même certaines choses. Bon, c'est un peu au niveau national, mais il y en a aussi au niveau à Marseille. Il va en avoir encore de plus en plus, mais voilà. Et si vous avez encore des questions sur la psychiatrie en général, contact à soinsoin.fr, il n'y a pas de souci. C'est tout ce que vous voulez nous dire. Et tu voulais parler de quelque chose en particulier encore, Hélo ?
Bah ouais, on voulait parler... on n'a pas...
Tu voulais mettre une chanson ? On peut mettre une
petite
chanson ?
J'aimerais vraiment mettre Ginette Garcin.
Ginette Garcin.
Sur les médocs.
Ginette Garcin.
Crixoxypropanédiol en ampoule.
C'est qui Ginette Garcin ?
C'est une super nénette.
Quelle année déjà ? J'ai pas
60, ouais. Yéyé, mais qui parle des médocs.
À fond, ouais.
Ok.
Et lorsque ça va mal, elle prend un petit...
Plein de trucs.
Si besoin. Un petit si besoin.
Ok, bon, on va écouter son si besoin.
Le clip est super.
C'est tu pars, Marlène ?
Souvent lorsque ça va mal, quand je n'ai pas le moral, quand je sens mes nerfs qui craquent, ou lorsque je suis patraque, pour me mettre dans le vin, je connais un bon moyen. Dans un verre d'eau sucrée, je prends pour me remonter
du silicate anhydrique, le magnésium, du pas du sulfur, gaïacolate de potassium, du glycérohydrate monoammoniacal, du bichlorhydrate mylénique officinal, de l'orthodioxybenzène tocopherol, du crassoxypropanédiol en ampoule, de la binophénisulfonatamphétamine, de l'hexachlorocycloxanesculoside, de l'acide alinisopropyl barbiturique, de l'éthervasyl ammoniumcloride phosphorique, de l'acétylaménéphénylarsinazole, du crassoxypropanédiol en capsule.
Rien ne vaut, je le proclame, les vieux remèdes de bonne femme. Mon grand-père, d'un geste fier, en sortait de sa tabatière. Papa qu'était estafette, en avait dans sa musette. Et quand j'ai passé mon bac, je trimballais dans mon sac.
Bah du silicate anhydrique de magnésium, du poids du sulfo gaïacolate de potassium, du glycérohydrate monoammoniacal, du bichlorhydrate mylénique officinal, de l'orthodioxybenzène de tocopherol, du crassoxypropanédiol en ampoule, de l'aminophénisulfonate amphétamine, de l'hexachlorocycloxanesculoside, de l'acide alinisopropyl barbiturique, de l'éthervasyl ammoniumcloride phosphorique, de l'acétylaménéphénylarsinazole, du crassoxypropanédiol en capsule.
Et si vraiment ça ne va pas mieux, pas mieux, pas mieux, je prends deux ou trois aspirines et un sucre.
Voilà, donc c'était notre amie Ginette Garcin, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
C'est super cool, Ginette.
Ouais, elle s'est bien prononcée parce que j'ai déjà essayé, c'est impossible. C'est pas vrai pour moi, ma gueule.
Elle en a fait d'autres comme ça ou c'est la seule ?
Sur ce thème-là, je sais pas.
Je sais pas trop.
Faut voir. Je sais qu'elle en a fait d'autres, je crois, qui ont bien marché, j'étais tombée dessus. J'ai pas écouté.
D'accord.
En tout cas, c'est vrai que c'est celle-là, elle est incroyable, elle rentre très bien dans le thème.
Effectivement, effectivement.
Du coup, pour parler du coup de crixoxypropanédiol, c'est-à-dire des médocs, on va introduire un poème de un poème de Sakharine. Voilà.
Et ouais, j'ai le petit... Ah ouais. Mais au pire, je sais pas, tu fais des
petits. Saccharine, excuse-moi, c'est ton vrai prénom?
Oui,
ouais, ça se demande pas trop.
Il est pardon, réel.
Désolé.
En tout cas, il existe dans cette réalité.
It's a real name.
Okay.
Et ouais, c'est un poème que j'ai écrit quand j'étais du coup à la clinique des Trois Lucs. Et où on a un peu. J'avais un peu l'impression d'être une expérience humaine, je sais pas. Chaque jour, on testait un truc différent. On va voir ce que ça fait, quoi. On teste et on voit. Du coup, tous les jours, je prenais genre un truc différent. Je faisais kétiapine, le lendemain, aripiprazole, machin. Jusqu'à trouver, bon, au final, j'ai rien pris de régulateur d'humeur, puisque dans tous les cas, ça allait pas. Mais j'ai quand même écrit un petit poème sur l'aripiprazole, puisque ça m'empêchait de dormir. Donc j'avais du temps. Et bon, à la base, c'est une chanson, mais là, on s'est dit on allait l'adapter en poème. Voilà. Alors, les infirmières me donnent des médicaments. Elles disent, c'est joli comme prénom. C'est pas mon prénom, mais je ne leur dis rien. Elles sont super sympas et elles me font du bien. 30 de paroxétine, demi d'aripiprazole, et puis pour le dessert, je prends un petit Valium. Je leur raconte mon rêve, je fais mes salutations, je vais me recoucher. Maintenant, je suis défoncée. Ça fait quand même moins peur un zombie qui dort. Plutôt qu'une toxicomane avec des sauts d'humeur. C'est sûr.
C'est sûr.
C'est sûr. Voilà.
Tu l'as fait quand ce poème?
À la clinique, c'était il y a un an et demi, je pense, maintenant.
Clinique des Trois Lucs?
Ouais, je le disais 3Q, mais en vrai, c'est Trois Lucs.
D'accord. C'est, ils ont un service spécial pour jeunes là-bas aussi, non, c'est ça?
Pour jeunes? Ah, je sais pas, moi j'étais. Enfin, on avait été tous mélangés. Hein. Après, je crois que c'était par étage selon la.
D'accord.
Enfin, je sais que mes potes que je m'étais fait, qui étaient vraiment un peu plus en crise, ils n'étaient pas au même étage que moi.
Ok.
Après je sais pas, moi-même, j'étais dans un étage, j'ai pas trop pris le temps de comprendre comment ça marchait, quoi.
Ouais.
Mais après, moi, je pense que je suis une. Enfin, pour l'instant, je suis la seule personne que je connais qui n'avait pas eu trop une expérience dégueu. Enfin, je sais que juste, j'ai kiffé parce que même quand ils me faisaient tester plusieurs médocs comme ça, même s'il y a un truc qui m'allait pas, j'avais juste à dire et on arrêtait. Et je sais que c'est pas forcément le cas.
Ouais.
Enfin, même après, pour tous mes patients. Mais je sais qu'il y a des patients, ils refusaient. J'imagine, après, je sais pas leur cas. En tout cas, moi, même mon traitement où je suis venue de base, j'étais arrivée, je prenais 40 de paroxétine par jour. Le jour au lendemain, j'ai dit que j'avais envie d'en prendre moins, ils m'ont donné moins.
Paroxétine, c'est quoi le nom générique ou le.
Un truc comme ça. Je sais pas, je suis à l'ouest, moi. Okay. Je sais même pas ce que j'avale à la fin, là. Mais, et ouais, j'étais sous Valium aussi. Même le Valium, si je voulais, je le prenais pas. Donc c'était assez open, mais je suppose que c'est surtout en clinique que c'est comme ça.
Ouais.
Ok.
Parce que quand tu rentres, c'est vraiment, il y a une différence lorsque tu rentres. De ton plein gré ou contre ton gré, quoi.
Mmh.
Et de toute façon, les cliniques ne prennent pas les cas de. Ce qu'ils appellent les cas de psychiatrie aiguë. Mmh. Et du coup, ils se retrouvent. Et elles se retrouvent dans les hôpitaux publics.
Ouais, ils prennent jamais. Parce qu'il y a quand même des cas, je sais, là, c'est vraiment ça. C'est en mode. Il y avait des gens en méga.
Disons qu'ils prennent pas le soin sous contrainte. Le soin sous contrainte, ouais, ça se fait d'abord en. Ça se fait qu'à l'hôpital public.
Ouais.
Puis après, les cliniques, on dit que plutôt c'est du post-cure, quoi.
C'est pour après.
C'est pour après que quand ça va soi-disant un petit peu mieux, quoi. Mais
parce que en plus c'est dans leur intérêt les hôpitaux de les faire sortir le plus vite possible parce qu'il faut libérer des lits, quoi.
De tout mon séjour là déjà c'était je parle grave d'un autre truc, je sais pas, mais juste je suis restée un mois et demi, j'ai eu un oreiller 5 jours avant de partir. Non, j'avais pas de table et tout, j'ai rien, et l'oreiller, je crois que j'ai passé une semaine sans serviette, sans drap, sans oreiller. Je trouve ça fou.
Ah ouais. Carrément.
Ils n'avaient même pas assez d'oreiller et tout.
Mais c'est vraiment c'est l'état des hôpitaux publics à Marseille. En tout cas, moi, c'était incroyable. Moi, il y avait un. Donc, moi, je suis passé par Solaris, là, à Dromel, à Sainte-Marguerite. Et j'étais dans un des services de Solaris. Et en gros, Solaris, il y avait plein d'espaces qui étaient de l'ordre de la bibliothèque, musicothérapie, art-thérapie, il y avait un gymnase, il y avait ce qu'ils appelaient la sociothérapie, c'est le bar en gros. Il y avait plein de choses super intéressantes comme ça, mais en fait tout était fermé parce que il n'y avait plus de moyens d'avoir des intervenants pour gérer ces trucs. Donc il y avait plein de matos, il y a un gymnase là-bas qui est magnifique. Parce que je le voyais d'en haut, là, il est tout propre, le grand et tout. Et en fait, ils ont réduit le budget, même la salle télé. La télé, comme soi-disant, les gens la pétaient, donc il n'y en a plus. Donc en fait, ils ont tout réduit à juste les infirmiers, les médecins et puis la bouffe, c'est tout quoi. Ouais. Donc il y a en fait
il y a aucune activité, il y a rien.
Ah non, mais
c'est la prison quoi. Et non, en prison il y a des activités.
Il y a même un psy qui était là-bas à l'époque qui avait dit ah ben tant mieux si ils ferment les activités, comme ça les gens ils voudront pas rester.
Ah ouais.
Donc c'est assez terrible ça, ce truc de en fait voilà, ils s'en foutent complètement de ça quoi. Les médecins ils sont pas là pour que tu ailles mieux et que tu te plaises, pour que tu rigoles quoi. Ils sont là juste pour te
être payé.
Ouais, ou que tu en tout cas c'est le je pense que forcément ils auraient certainement plus de comment dire de s'il y avait plus de moyens, ben peut-être qu'ils pourraient un petit peu réfléchir, mais bon, il faut aussi voir ce côté-là que vraiment il y a zéro tunnel. Moi je suis pas allé à la conception, mais j'ai eu des retours de gens qui sont passés par la conception assez terrible quoi. Il y avait une copine qui avait fait, enfin une fille que j'accompagnais, qui a fait genre 4 mois d'isolement. L'isolement, donc bon, elle avait quoi, peut-être une heure par jour, même pas, non, c'était, elle avait droit à 4 cigarettes par jour à fumer.
Il compte les clopes et tout quoi.
Ouais, c'est ça.
Une par heure, et il y a ton quad bar sur le paquet. Mais de clopes.
Mais ça,
c'est exceptionnel.
Et je me demandais ça, on a trouvé. Parce que toi, on a peut-être parlé du coffre, parce qu'il y a aussi Sakharine. Ouais. Sakharine et moi, moi je suis passée par le coffre aussi, par là. Mais il y avait une avocate qui proposait.
C'est quoi le coffre déjà?
C'est un.
C'est un assaut, non?
Ouais, je sais pas, c'est une assaut de personnes concernées par la psychiatrie, qui un groupe d'entraide autour de. On remplit ensemble les directives anticipées, on voit ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait pas du bien. Plusieurs modules, droit, bien-être.
Ouais, moi, là je fais droit et on apprend. Par exemple, là, il y a certaines. C'est tous les mardis. Et là, par exemple, les dernières séances, il y avait une avocate qui venait, qui était spécialisée là-dedans, enfin, en mode, qui venait nous expliquer comment on fait, quelles sont les procédures à faire, qu'est-ce qu'il faut savoir qu'on ne sait pas forcément
pour savoir des problèmes. Je crois que c'est centre de formation, rétablissement. Vous tapez COFOR, COFOR sur Internet.
Le site est tout nouveau, tout beau.
Ouais, le site est tout nouveau. En gros, c'est fait pour les usagers de la psy, qui apprennent un petit peu à reprendre du pouvoir donc sur leur rétablissement donc c'est sous 4 modules différents. On va parler des droits, donc on apprend à justement revendiquer ses droits. C'est chaque module c'est une après-midi par semaine, ça c'est assez léger. C'est 2 heures par semaine, ouais. Et en plus, c'est pas payant, heures. Bien sûr. Et moi-même, on est payé, je crois.
On est payé à la fin, si on vient.
C'est défrayé que 250 euros par trimestre.
Donc, c'est assez chouette quand on est un petit peu perdu avec sa pathologie, entre guillemets, ou sa souffrance. Parce que là, d'un coup, on a des repères. On a des gens qui sont comme nous, qui sont concernés. On peut aussi parler de nos expériences. On peut discuter, on est d'un coup dans une sorte de non-mixité et ça c'est super agréable.
Ouais, c'est le format en fait qui est bien aussi, comme c'est vraiment un groupe de parole.
Ouais.
C'est vraiment une approche différente que.
C'est pas une formation avec un prof, etc., qui t'apprend, c'est quand même un petit peu plus horizontal que ça.
Il y a une personne qui dirige un peu.
Ouais, il y a les aidants, facilitateurs, voilà. Facilitatrices.
Mais en vrai, il y a des moments où on se retrouve à tous échanger. Un peu autant les uns que les autres. Enfin,
centre de formation au rétablissement, il y a marqué.
Ouais, il y a combien de personnes par module?
Je sais pas, mais il y a toutes les infos sur le site en vrai.
Allez voir.
Après, c'est
y a
pas mal de le dire aussi.
Et puis il y a les brochures qui sont à Manifesten aussi.
Après, c'est pas. Faut pas. Enfin, moi je sais que du coup, j'avais appelé genre, je sais pas, en début d'année.
Il y a un numéro de téléphone.
C'est par session.
Centre de ressources du COFOR. Ah,
c'est 06 44 88 93 53 pour ceux qui n'ont pas d'internet. 06 44 88 93 53. Voilà, vous pouvez appeler ou alors vous, encore une fois, vous demandez à votre médecin ou à quelqu'un, un professionnel du soin, il pourra vous aider aussi à trouver ça. C'est, il y a différentes commissions, enfin c'est à chaque
c'est
fois.
C'est à Montredon, ouais.
Non, ils sont plus là-bas. Maintenant, ils ont plus de locaux, okay. Ils sont un peu itinérants. Mais du coup, il y a 40, enfin je sais plus combien de personnes par module, mais c'est assez. Vous êtes une douzaine, non, par classe?
Oui, à peu près. Je crois que ça dure 3 mois. Et après, ça recommence. Il faut être inscrite, t'es sur liste d'attente. Et
vous sentez que ça vous aide à vous repérer un petit peu?
Moi, j'ai fait rétablissement et ça m'a déjà remplir en fait en groupe les directives anticipées. C'est trop beau de remplir parce qu'on se rend compte, ah oui, mais toi aussi, ça, ça te fait du bien. Ah oui, mais toi aussi. En fait, c'est se donner des tricks. Ce qu'on appelle les tricks, c'est comme en skate, grosse pensée pour la copine. C'est-à-dire des trucs qui nous font du bien, qui nous font ce qui nous font pas, ce qui ne fait pas du bien, et qui se rejoignent entre nous. Par exemple, je sais pas, j'ai hyper envie de prendre l'air ou d'être dans la nature, ou au contraire, je préfère rester dans un petit cocon, me mettre sous la couette, dans des draps propres. Enfin, des techniques, en fait.
Et oui, c'est chouette, ça.
Pour arpéanter, moi j'ai trop du mal à
appréhender.
Appréhender.
Apprivoiser.
Articuler.
Ça fait 6 ans.
Dompter le trouble. Voilà, on l'a. Dompter le trouble.
Ouais, donc c'est un des dispositifs qui existe à Marseille pour justement éviter trop de réhospitalisation. D'ailleurs, ils ont fait une étude. Il y avait Aurélie Tinland qui a fait une étude sur justement les directives anticipées, et ils sont aperçus, bah là, elle est sortie il n'y a pas longtemps, l'étude, qu'avec ces fameuses directives anticipées où on note tous les signes précurseurs, les choses qui nous font du bien, la personne de confiance à appeler quand ça va mal, etc., quand on est en crise, quand on ne gère plus, quand les gens remplissent ce document, ils se sont aperçus qu'il y avait quand même 20% de deuxième hospitalisation derrière, comme en moins. Donc c'est quand même assez chouette qu'un simple document papier puisse éviter quand même que des réhospites derrière. Et voilà, c'est plutôt cool. Là on vient de parler de COFOR, directive anticipée. Qu'est-ce qu'on aurait à dire encore, on pourrait parler aussi des associations de pères aidants. Qu'est-ce que c'est que la père aidance alors, et du coup, le savoir expérientiel, on pourrait aborder ça. Là, il nous reste 10-12 minutes pour parler un petit peu d'encore autre chose, mais à travers l'établissement un truc assez large. Une grosse mouvance aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le rétablissement psychiatrique. Alors peut-être quelqu'un peut en parler. Sonia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça?
Oui, ben le rétablissement, la père aidance, c'est une autre forme de rétablissement. C'est plus subir, en fait, c'est l'empowerment, c'est plus subir les dires du médecin, ou c'est un petit peu trouver des directives parallèles.
Ouais.
Grâce à notre savoir à nous, savoir de se dire ça a marché sur moi, ça n'a pas marché. Dire ça, il faut vraiment éviter.
Depuis 20 ans, en gros, il y a une sorte de mise en valeur du savoir expérientiel des usagers.
Oui.
Et qui est pris en compte quand même de plus en plus par les nouveaux médecins.
Les médecins, mais il y a quand même un tabou, c'est que moi je sais que j'ai passé le DESU, j'ai été diplômée, heureusement.
DESU, c'est quoi DESU?
Le diplôme interuniversitaire,
ouais,
du professeur Naudin, mais heureusement derrière j'ai un diplôme d'EDUXP.
Ouais.
Parce que même les gens qui sont déclarés, qui ont fait la formation du Canada, ils sont considérés
formation
comme.
Formation quoi? Formation de quoi?
La formation canadienne, la première.
Mais DESU de quoi?
De père aidance.
D'accord, père aidance. Mais il faut dire aux auditeurs qu'est-ce que c'est la père aidance?
La père aidance, c'est le fait d'avoir une maladie mentale. Et d'être formé sur la maladie mentale et de connaître en fait un petit peu les dispositifs, les médicaments, les maladies,
ouais,
les droits.
Les droits.
Et c'est
exactement
destiné à être un vrai métier.
C'est un vrai métier, et malheureusement, c'est toujours pas déclaré comme métier pour la Chambre des métiers.
Ils sont amenés à travailler où ces gens-là?
Mais justement, il y en a qui travaillent. Moi, je travaille dans un groupe d'entraide mutuelle, mais il y en a qui travaillent, et ça, je le dis depuis 2017, il y en a qui travaillent pour l'hôpital, pour la PHM, ils sont agents administratifs.
Ouais.
Et ça, c'est pas normal, puisqu'on nous forme, on paye très cher.
Ouais.
Parce que la formation est payante, on acquiert énormément de savoir, on demande encore plus, puisqu'on est déclaré fou. On doit s'occuper d'autres fous, et à la fin, dans les commissions, on est bénévole, on est défrayé, et dans le métier, on n'est pas reconnu, ou alors on n'a pas de fonction.
Et qu'est-ce qui t'intéresse dans l'approche? Pourquoi est-ce que, à ton avis, les personnes usagères ont été. Pourquoi on a voulu des pères aidants? Quoi ça les sert par rapport aux gens qui vont mal, les professionnels?
Au début, c'est basé sur les gens qui avaient le sida ou sur les alcooliques anonymes.
Ouais.
On a vu que le fait de parler entre nous et sans être jugé, sans être stigmatisé, ça faisait beaucoup de bien.
Ouais.
Et c'est venu dans les personnes qui ont des troubles mentaux, parce que moi, de toute façon, la seule chose qui me fait du bien dans toutes les hospitalisations, c'est de parler avec mes pères.
Mais c'est avec des gens qui te comprennent parce qu'ils ont vécu la même chose
que toi.
C'est
pas la demi-heure de psychiatre où on attend une heure dans la chambre ou la mauvaise réflexion où on se prend le pyjama bleu qui m'a aidée, quoi. C'est de parler avec des gens qui étaient... qui avait avancé plus que moi, et après c'est moi qui avais avancé plus qu'eux, et j'ai aidé les autres qui m'avaient aidé.
Oui, il y a cette notion de
c'est la père-émulsion en fait.
Partage, ouais. Ouais, ouais.
Comment tu dis père-émulsion?
Père-émulsion, en fait, le fait de s'aider les autres, les uns les autres, on s'entraîne, ça crée une émulsion.
Une émulsion. Ouais. Ah, j'aime beaucoup ça.
Ouais. Et en fait, les infirmières et tout, ben, enfin, moi je sais que ça m'a jamais trop aidé, surtout quand tu rentres en libre et que tu ressors, enfin, quand on te met sous contrainte.
Oui, c'est ça.
Parce que tu l'ouvres trop, peut-être trop les autres. Donc
il y a une sorte de une complicité que tu retrouves dans l'autre, un petit peu une sorte de un discours qui n'est pas le même que celui du médecin qui va te voir.
C'est ça, et puis il y a les plus forts et les plus faibles. Donc ceux qui savent se défendre ou qui ont un petit peu de une grande gueule, quoi, ils vont aider les plus faibles et en fait on fait une cohésion, quoi. On ne se laisse pas tomber les uns les autres.
Ça, c'est chouette.
Et puis toutes les pathologies sont mélangées dans le public. Il peut avoir l'alcoolisme, il peut avoir la schizophrénie, il peut avoir... moi, je suis borderline TDAH. Donc, on est obligé d'aider les personnes qui errent dans les couloirs ou qui sont en couche ou déshabillées. On voit des choses qu'on n'imaginait même pas dans les premiers séjours. Et donc, voilà, il y a une solidarité.
Donc, il y a de plus en plus de pères aidants. Il y a cette notion de rétablissement psychiatrique donc, qui veut remettre l'usager au centre de son rétablissement grâce à diverses notions comme justement l'empowerment. Son savoir et son expérience. Et à Marseille, donc Marseille, c'est une ville un petit peu pionnière dans ces notions-là, parce que il y a une personne qui s'appelait Vincent Girard qui a
tout saccagé.
Il est d'abord venu au début des années 2000 avec différentes notions américaines, justement, ces notions-là.
Pas lui qui a tout inventé, c'est pas Vincent Girard qui a tout ramené, quoi.
De toute façon, le professeur,
c'est un peu ça, c'est un peu quand même ça qui s'est passé au début des années 2000 à Marseille, notamment avec les Nomades Célestes, le Marabout.
Mais il y avait Aurélie Tinlande aussi, heureusement, c'était chapeauté par le professeur Naudin.
Mais
c'était
porté par beaucoup de personnes, mais c'est pas Vincent Girard.
Pas vraiment.
Non, c'est le professeur Naudin et le professeur Lançon qui ont embauché les pères aidants de Marseille.
Oui.
Pas Vincent Girard qui est médecin.
Ouais. Non, mais disons que lui, c'est quand même aussi sous.
Oui, il a lancé l'idée, mais comme le 1 chez soi, c'est Aurélie Tinlande, comme les directives anticipées. Vincent tire beaucoup la couverture à lui, mais
oui, c'est ça,
il fait beaucoup de SDF, quoi. Après, il les retrouve, il les aide parce qu'il les met dans la merde.
Vincent, on t'embrasse, hein, bien sûr.
Oui, moi aussi, je t'embrasse fortement. Grâce à toi, je suis partie à Martinique, j'ai réussi ma vie, merci beaucoup.
Tu es allée en Martinique?
Ma Martigues, je suis de Martigues. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'idées à Marseille. Il y a beaucoup, que ce soit le lieu de répit, le tipi, le bus.
Et ouais, comment s'appelle la meuf du tipi, là j'ai oublié.
Je suis Martégal, désolée, je me rappelle plus, je me rappelle que de Maïla, du bus du bus 31.
Mais donc voilà, donc Marseille, c'est une ville pionnière un petit peu dans tous ces dispositifs, notamment justement avec le chez soi d'abord, qui est en gros justement une méthode américaine où en gros, avant, on disait aux personnes qui étaient à la rue, qui avaient des problèmes psy, ben soigne-toi d'abord et après comme ça tu pourras trouver un appart. Et en fait, ils sont aperçus que c'était l'inverse, parce que évidemment, quand t'es à la rue, tu te soignais et trouver un appart, c'est extrêmement dur. Donc c'est un dispositif qui fait que les gens qui sont à la rue, on leur donne quasiment les clés en main d'un appart, et ensuite ça leur permet de rentrer dans un dispositif de soins, un protocole de soins. Oui. Et ça, c'est bien plus adapté que évidemment l'inverse. Donc c'est encore une fois un dispositif qui est né à Marseille et qui en France en tout cas qui a commencé à Marseille, qui s'est répandu dans 6 ou 7 villes en France.
Au Japon aussi.
Ouais, mais en France il y a 6 ou 7 villes. Il y a Paris, Lille, Lyon. Il y en a de plus en plus. Et donc ces dispositifs-là aussi engagent des pères aidants, des personnes usagères, donc pour aller ce qu'on appelle l'aller vers, pour aller vers les personnes qui en ont besoin. Et donc c'est aussi intéressant, si vous voulez vous intéresser à la psychiatrie et à ce qui se passe à Marseille, encore une fois, il n'y a que Internet.
On veut traîner à la plaine, quoi.
Aussi, ouais. Mais en gros, il y a beaucoup de de choses comme ça qui se passent à Marseille, heureusement, parce que bon, y a beaucoup de gens qui souffrent, mais il y a beaucoup de possibilités d'alternatives à l'hospice. Donc ça, il ne faut pas désespérer si vous êtes chez vous et que vous vous sentez vraiment seul et un peu perdu dans votre parcours. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. Donc, et encore une fois, moi je trouve qu'ils ne sont pas vraiment assez mis en avant, bon, parce qu'ils sont aussi, ils sont débordés chacun. Forcément, dès que tu mets une alternative à l'hospice qui marche, ben forcément, il y a plein de gens qui vont direct, quoi. Donc c'est un peu, c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que c'est le lieu de répit. Le lieu de répit qui est un lieu, donc un immeuble vers le 5e avenue où il y a 10 studios, c'est un immeuble avec 10 studios où les gens peuvent y rester 3 fois un mois, enfin même 3 mois d'affilée. C'est pas un lieu médicalisé, c'est un lieu où on les accueille, on les nourrit, on les loge pendant 3 mois. Ils peuvent se reposer, pour des gens qui ont des souffrances psy. Et ça, c'est encore une fois une alternative à l'hospitalisation qui est unique en France pour l'instant, malheureusement, alors qu'il en faudrait, bon, à Marseille, il en faudrait dans chaque quartier. Et en France, il en faudrait au moins dans chaque arrondissement. C'est un endroit où on peut aller.
Il ne faut pas aussi parler des limites aussi, hein, parce que le lieu de répit, là, voilà. Au moment où on vous parle, il n'y a plus personne parce que tout le monde est parti.
Non, mais c'est un peu passé cette crise. Je ne sais pas si tu as vu récemment, mais là, il y a des nouvelles personnes qui sont...
Oui, on est en plein dedans, en fait.
Ok, d'accord. Mais donc oui, c'est des lieux certes, avec limites et des...
Parce que manque de moyens, parce que l'ARS ne file pas d'études, c'est-à-dire que c'est un lieu où les gens peuvent venir, mais en crise psychotique, par contre, à 21h, il n'y a plus personne dans les locaux.
Ça, c'est un truc de fou.
Il n'y a plus personne dans les locaux. Donc de 21h à 9h, on rassemble une vingtaine de personnes en crise psychotique, et à 21h, on les laisse se démerder.
C'est vrai qu'ils sont en manque de thunes et que c'est le fait de la personne qui est là la nuit, c'est un des problèmes principaux.
Il n'y a pas d'argent, du coup, il faut faire attention avec comment on fait rentrer les gens, comment on gère un collectif et le vivre ensemble comme ça, parce que ça fait partir. En fait, c'est des humains, et du coup, ces humains, ils rentrent, ils sont en fragilité, ils rentrent ils font confiance, ils rentrent dans le lieu de répit, dans un état de fragilité, et ben. Il faut essayer de je sais pas ce qu'il faut faire, mais
oui, non, bien sûr, mais j'entends très bien ton,
parce que là
tu dis
dans ta critique, ouais,
mais c'est ta critique, mais c'est juste que là on ne pourra pas rentrer dans les détails vu qu'il nous reste 1 minute 30, mais aujourd'hui,
c'est super
en général,
que ça existe et tout. Après, il y a des gens merveilleux et tout au lieu de répit, ça, il y a aucun doute là-dessus, mais il faut aussi se confronter aux limites. Et les limites, c'est quoi? C'est on n'a pas de thunes et ce système de merde patriarcal capitaliste est en train de nous tuer, de fermer les hôpitaux, les gens sont en train de crever. Et il faut juste remarquer ça aussi.
C'est vrai, c'est vrai.
On ne l'a pas assez dit dans l'émission.
C'est vrai, c'est vrai. Pour une première émission, on aurait pu un peu plus appuyer là-dessus, mais
on le dit là, 2h56 avant.
C'est bien, bravo, merci Louise, tu sauves notre une certaine éthique.
Nique Macron, nique la police.
Voilà, d'accord. Ensuite, on va essayer de.
Et bisous les petits champs.
On va se quitter tout doucement avec une musique de Daniel Johnston que notre ami Alexandre.
Ben oui, allons-y, ouais, pour conclure. Ouais.
Et donc, ben merci à tous. On se retrouve mois prochain, le troisième lundi du mois de 21h30 à 23h. Si vous avez des questions, toujours, ben n'hésitez pas. Hein, contact@soin.fr. Vous pouvez envoyer un mail à Galère qui redirigera aussi. Et puis voilà, on va encore discuter justement plus profondément de toutes ces alternatives à Marseille, de tout ce qui est ces nouvelles notions sur la psychiatrie, tout ce qui est possible de faire quand on est un petit peu seul et sans ressources. Et un petit peu rentrer plus dans le côté militant et en revendication des droits des usagers en général.
Chaque troisième lundi du mois.
C'est ça, de 21h30 à 23h.
Radio Soin, la radio qui vous fait du bien.
Ben merci à vous tous.
No borderline, no borders.
Ciao.
Bonsoir.
Listen up and I'll tell a story about not an artist growing old. Some would try for fame and glory. Others aren't so bold. Everyone and friends and family saying, hey, get a job. Why do you only do that only? Why are you so odd? We don't really like what you do. We don't think anyone ever will. It's a problem that you have, and this problem's made you ill. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory. Others aren't so bold. The artist walks alone. Someone says behind his back, he's got his gall to call himself that. He doesn't even know where he's at. The artist walks among the flowers, appreciating the sun. He does this all his waking hours. But is it really so wrong? They sit in front of their TVs, saying, hey, this is fun. And they laugh at the artist, saying he doesn't know how to have fun. The best things in life are truly free. Singing birds and laughing bees. You got me wrong, says he. The sun don't shine in your TV. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Thank you.